qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur de l'humanité. Et notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des odeurs. Alors poursuivons notre voyage au pays des mots et des mets. Poursuivons notre abécédaire. Croissant. On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors dans le bleu du matin ourlé de rose. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre, léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangère est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand les autres dorment. Presque tous, là-bas. Il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client. Complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue. On le sent bien. La marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenus de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison. Refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Déjà, le jour commence et le meilleur est déjà pris. Gâteau. Gâteau du dimanche. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui qui, en supplément, sera là pour les gourmands? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, au bord arrondi, relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Et ce sera tout ? Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous, mais dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourcier des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette espèce de componction de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule? Mais non. Si les trottoirs dominicaux ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose. Autant que ça et là, quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées du PMU, du café ou du tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche en famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui. Le temps balance en encensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café. L'art frit. Au fond de notre jardin, près du poulailler, mon père installe de temps à autre un fumoir de sa fabrication. Constitué d'une plaque de zinc enroulée sur elle-même et surmontée d'une cheminée tubulaire. Il y suspend de longues bandes de lard cru et place à sa base des pelletées de sure d'épicéa qui se consument avec lenteur, sans flamme, produisant une fumée bleutée comme celle qui monte des coupes de bûcherons dans les sapinières d'automne et flotte au faîte des grands arbres pour les couronner. Forêt des Vosges, plaisanterie vosgienne. Tu aimes mieux ton père ou ta mère ? J'aime mieux l'art. Il faut de nombreux jours pour que le fumage soit efficace. Quand mon père retire les bandes, celles-ci se sont rabougries, durcies. Elles ont troqué leurs teintes blanches, roses et fraîches pour d'autres, plus sourdes. La couenne est devenue cuir, et si on approche la narine, l'odeur de viande se marie désormais au parfum sauvage du résineux et de la fumigation. Prendre un couteau bien affûté, une planche à découpe d'épée, prélever de la bande de lard deux tranches d'une épaisseur d'un demi-centimètre et faire chauffer une poêle. Y placer une petite noisette de beurre, attendre qu'elle fonde, puis disposer à plat les deux tranches. Musique et délice. La cuisine soudain bruit du grésillement de la chair en même temps que de la poêle. Se dégage un panache épais qui sent la graisse chaude, la viande grillée, la pomme de pin, le poil roussi. On contemple les mutations rapides du lard dont les parties grasses sous l'effet de la chaleur deviennent translucides et suantes, tandis que les lignes de maigre virent au rose tyrien, au parme, au garance, voire à l'ocre terre de sienne si on laisse la cuisson se prolonger de quelques secondes. Vite, retirez. Couchez les deux tranches sur du pain de campagne. Arroser la tartine avec l'huile brûlante. Manger chaud. Mon père me prépare cela. Aucun régime ne prescrit cette recette. Et c'est bien dommage. Elle est pourtant un des chemins qui conduit à un instant de parfait bonheur. Le parfum du lard qui frit avec celui des oignons, ou les deux conjugués, provoque chez moi une salivation immédiate et une béatitude qui se prolonge bien après le repas. Casse-croûte serait plus approprié. Quelque chose d'improvisé, sans façon, sans embarras. Vous voyez, vers les 10 heures du matin, comme un pied de nez aux convenances. Au retour du marché, par exemple, le jeudi, quand, après avoir été devant l'étal de la camionnette ouverte du père Hafner, charcutier, paysan éleveur de porc à Montigny, non loin du pays de Donon, comme face à la vitrine d'un magasin de jouets avant Noël. Je dépose sur la table de la cuisine mes trésors. Fromage de tête, boudin noir, boudin blanc aux trompettes de la mort, lard fumé, museau, cervelas, petites saucisses, pieds panés, jambon à l'os, filet mignon. Et que, pour rendre hommage à la bête sacrifiée et à son sacrificateur, je saisis le lard, le respire. En coupe deux fines tranches, prépare le pain, la poêle, comme le faisait mon père pour moi. Et après m'être versé un verre de centenay de chez Borgeau, m'apprête à célébrer une messe à laquelle je ne suis pas prêt de renoncer. Madeleine. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablée par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant, À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre. Oui, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers leur image, avait donc quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli, ou, ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans les tilleuls que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait fait construire et qu'avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire les courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leur petit logis, et l'église, et tout Combray et ses environs. Tout cela, qui prend forme et solidité, est sorti. Villes et jardins, de ma tasse de thé.
Münster. Le Münster. Un interdit de séjour, expulsé, condamné, été comme hiver au rebord de fenêtres, qu'il pleuve ou qu'il neige. D'apparence pourtant insignifiante, petit, circulaire, peu épais, hésitant entre le jaune et l'orangé, arborant par places des lèpres blanches ou grises. Ouvert, il révèle une chair crayeuse dans ses premiers âges, d'une pâleur de falaise normande qui s'éboule facilement sous la pointe du couteau. Avec le temps, elle prend une mollesse pouvant aller jusqu'à la coulure, devenant ocre et luisante, tandis que sa croûte se fripe comme les joues d'une rentière trop poudrée. Ma mère ne tolère pas sa présence dans le réfrigérateur et s'épouvante dès que mon père, dont c'est tout à la fois la friandise et la petite Madeleine, d'en faire rentrer un à la maison comme un clandestin.
« Oh, tu ne sais pas ce qui est bon !»
lui dit-il.
À quoi elle répond « Tu as bien raison, sinon je ne t'aurais pas épousée. »
Ma mère n'aime pas. Ma mère n'aime pas, donc nous n'aimons pas non plus, mes sœurs et moi. C'est pour cela qu'il me faut attendre longtemps pour goûter ce fromage, mais aussi celui des chèvres, la cervelle et le gigot d'agneau, et en faire désormais mes délices. Je suis aveuglément les goûts maternels et condamne avec elle ceux dégénérés de mon père pour les puanteurs comestibles. Je singe l'épouvante, je me pince le nez, grimace, fais mine de vouloir vomir. Le minster vieillit au dehors sans foyer, clochard laiteux, s'abritant pauvrement contre un volet replié sous l'œil hautain du thermomètre. Lorsqu'au fin de repas, mon père se lève pour l'inviter à table, nous quittons la cuisine en poussant de grands cris, comme ces parlementaires idiots et digérants qui sortent parfois de l'hémicycle avec fracas. C'est donc seul que mon père s'enveloppe des vapeurs de la chose. L'innommé, l'innommable, celui qui n'a de place ni dans la maison ni dans notre langage, et dont la légende colportée par ses ennemis affirme que pour l'affiner, on urine sur lui, ce qui est faux car il faudrait au pauvre fromager pisser bien trop. Purin, lisier, merde liquide, vesse, crème tournée, dents cariées, si le sentir est difficile, c'est en bouche qu'il se délivre. Le respirer le condamne, le goûter l'amnistie. Derrière ses allures de Quasimodo, de vilain canard ou de galeux, c'est un prince qui, pour apparaître, attend qu'on veuille bien l'apprécier. On se trompe si souvent sur les fromages ou sur les êtres. Poisson. Véron, goujon, tanche, chevenne, ablette, otu, barbeau, truite, carpe, brême, perche, cendre, brochet, vandoise, rotancle. Le corps des poissons est souple, lisse, parcouru d'énergie électrique. L'eau y glisse, chassée sans violence par le mucus, ce qui laisse dans la main du pêcheur une odeur de fontaine et de cresson, de fraîcheur et de coquillage douceâtre, de varech, de grand large, et ceci même pour ceux qui nagent en eau douce. Il faut l'avoir respiré pour s'approcher un peu du mystère de la pêche. Être là, sur la berge, au moment où jaillit hors de la surface de la rivière le corps agité du poisson pris à l'hameçon. Le calmer. Ne pas trop le serrer entre ses doigts, l'allonger dans l'herbe au besoin, enlever le plus délicatement possible le mince ardillon de métal de sa gueule ouverte. Un œil rond vous regarde, cerclé d'or, et vous juge, plein de reproches. Il luit comme le reste du corps de la bête, pure gemme, délicat, raffiné dans ses mordorures baroques et ses camaïeux de vert, de bleu et de gris. Pendant des années, je rêve de cette rencontre et de cette odeur. Jamais elle ne se produit. Je passe des heures sans parvenir à prendre un seul poisson au bord de la Meurthe, du petit canal, de l'étang, du poncé ou bien à la goulotte du Sanon. De ce gros tuyau d'évacuation sort tout le sang venu des abattoirs situés un peu plus haut et dont les bâtiments désormais abritent la caserne des pompiers. Le sang épais des bœufs, des chevaux et des porcs, rouge vif ou brun, caillouteux par moments, s'écoule dans la rivière
dont ils teintent l'eau sur quelques mètres. On voit de gros nuages carmin rouler leur rondeur dans les courants glauques avant de s'effacer. Et les poissons. Les poissons se baignent dans le sang des morts et s'en régalent. Les jours de grands massacres programmés, la place est chère, et il faut se lever de bonne heure pour pouvoir marquer le territoire et déballer ses gaules. C'est là que je finis par attraper le premier gardon, la première rousse, comme nous disons ici. Nageoire vermillon, écaille souple, odeur d'algues et de profondeur. Premier miracle. Poème des Caraïbes humides. Poisson aux rimes d'argent que j'ai reniflé longtemps. Le cœur battant, comme un animal renifle un autre animal. Sans pudeur et sans honte. Pomme. Il faudrait devenir octobre, terre battue, voussure de la cave, pluie, attente. L'odeur des pommes est douloureuse. C'est celle d'une vie plus forte, d'une lenteur qu'on ne mérite plus. Car ce sont les enfants qui mènent la rentrée, et le sentier des murs a le goût de l'école. La route est toute douce, à peine vallonnée. C'est une route pour causer. Entre deux averses, la lumière avivée se donne encore chaude. On a accueilli les pommes, on a accueilli les murs, on a accueilli l'été. Dans le petit virage aux noisetiers, on glisse vers l'automne. Petit pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bottes et les miettes, les bols et les miettes du petit déjeuner, loin encore les parfums mitaudés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal. Un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. « Je peux t'aider ?»« Ça va de soi, on peut aider. » On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous la peau, faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais. Frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés tout près, là, contre l'évier. Quelques carottes nues brillent sur le torchon et elles finissent de sécher. Alors, on parle à petits coups et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée et c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours allégé contre temps. Il y aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin, gousse après gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux, doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau verte tendre. Et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair. Et puis, il y aura juste le pain à aller chercher. Presque. Ce qui compte, C'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. C'est bon. C'est bon la vie au conditionnel comme autrefois dans les jeux enfantins. On aurait dit que tu serais une vie inventée qui prend à contre-pied les certitudes. On pourrait presque... C'est bon la vie au conditionnel. On pourrait presque manger dehors. C'est le presque qui compte et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars. La semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà, depuis le matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table mise, mais même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre entrouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. Tomate et sauce tomate. Seules les tomates mûres ont la sensualité penchée. Nous vivons de réserve. Les jardins donnent des légumes, les vergers, les fruits. Clapiers et basses-cours, viandes et œufs. Le reste est acheté 2 à 3 fois dans l'année en des quantités colossales. Un demi-cochon que l'on débite, sale, fume, congèle, réduit en saucisse, fromage de tête, boudin et puis sucre, riz, lentilles, paille, pâte, comme à l'odeur d'une guerre, à l'approche d'une guerre imminente. Stocker. Stocker est un acte de survie, un réflexe incontrôlable dans cette Lorraine, paillasson de l'Europe sur lequel, un jour ou l'autre, toutes les armées se sont essuyées les godillots ou torché le cul. Nous mangeons frais en saison, en bocaux le reste de l'année. Bocaux, le parfait. Alignés sur des étagères à la cave. Parades immobiles. Garde à vous impeccable. Ces urnes transparentes dévoilent leurs entrailles de petits pois, haricots, carottes, lapins ou poules en gelée, navets, choucroute, fèves, cornichons, cerises, groseilles, framboises, sauce tomate. Labeur d'été. Cueilli, apprêté, c'est-à-dire selon les cas, étêté, équeuté, tranché, pressé, dénoyauté, pelé, faire cuire. De la terre sèche qui en surface prend l'aspect de croûtes arides et claires, montent des écheveaux de verdure immenses et soutenus, pour les haricots par de grands bâtons que nous appelons des rames. Plus bas, la forêt lilliputienne des plantes tomates. Plus bas encore, rampant et soumis, les courges, les potirons, les citrouilles. Les corvées d'arrosage menées aux 2 crépuscules, celui du matin et celui du soir, révèlent l'intimité des cultures, comme si on les avait douchées nues et que l'eau répandue sur leur corps s'était imprégnée de leurs odeurs. Les plants de tomates déploient ainsi un violent talent aromatique. On est soudain dans un jardin de curé provençal. Tandis que les salades délivrent une fraîcheur fragile, les cornichons des senteurs piquantes et prolétaires, les feuilles des haricots une moiteur de jungle. Maturation. Les tomates turgescentes, fendues par endroits sous la poussée de leur chair, renflées, kisteuses, superbement inégales, sont déposées dans des paniers d'osier. Dans la cour derrière la maison, ombre fraîche du nord, mon père sort un gros brûleur qu'il pose à même le sol et relie à une bouteille de gaz. Ma mère nettoie les casseroles en fer blanc si grandes que l'on pourrait m'y faire cuire. Je surplombe la scène, accoudée à la fenêtre ouverte de notre cuisine. Massacre aztèque. Ma mère a les mains ensanglantées. Son couteau tranche, écrase, sépare, fait sourdre la pulpe, met à nu pépins, chair et alvéoles. Les tomates pleurent leur jus. Se change à une confiture dans laquelle j'ai soudain le désir de plonger les bras. Les casseroles sont pleines. Tout cela chuchote, clapote, bavarde, bouillonne. Ma mère touille avec une cuillère en bois, goûte du doigt, assaisonne, chantonne. Que sera, sera, que sera, sera. Mon père l'accompagne en sifflant, installe le stérilisateur, sorte de chaudière en zinc qui ressemble à un chapeau haut de forme pour géant de foire. Bientôt les tomates ont disparu, ne reste que leur sang mêlé, lissé, uni, brûlant, dont les vapeurs montent jusqu'à moi et me font du charme. Sucres et soleils, condensés estivales. À l'aide d'une louche, ma mère remplit les bocaux que mon père lui tend. Puis celui-ci place un anneau de caoutchouc sur leur col, les referme et les place dans le stérilisateur. Une buse plane mathématiquement au-dessus de nos têtes à la recherche d'un théorème sur le cercle. Plus tard, je jouerai avec le tuyau d'arrosage et je ferai naître des arcs-en-ciel. Plus tard, j'irai à la pêche. Plus tard, à mon retour, je lécherai les casseroles encore tièdes. Plus tard, plus tard. Que sera, sera. Que sera, sera. Que sera. Et pour finir, en cette période de confinement, où il en est un odorant dont on a bien besoin. Savon. Bloc parfait. Grosse dent d'animal égarée d'une mâchoire disparue et qui laisse sous les ongles qui le griffent un peu de son émail et de sa pulpe. Insaisissable, glissant, fuyant dans l'eau du lavoir communal qu'il a déjà teinté d'un lait clair. Les femmes parlent. Elles sont vieilles, aux cheveux jaunes et gris ramenés en chignon. Vieilles comme toutes les femmes lorsque l'on est un enfant, mais plus vieilles encore celles-là, car elles sont nées au début du siècle. Le XXe ont roulé leur vie dans la prégnance sanglante des guerres. Le lieu sans la maison de bain, le propre des bulles transparentes qui parfois naissent sous les coups de battoir et que je crève aussitôt. Car je suis dans l'eau, petit poisson humain sous le regard des laveuses qui m'éclabousse. Les draps se tordent entre leurs mains. Elles essuient la sueur sur leur front. Elles rient, jacassent, cancanent, sans pour autant ralentir leur ouvrage. Je ne sais pas nager. Mes pieds se posent sur le fond du lavoir, brut. Je ne les vois pas. Je ne vois pas mon corps. Je ne le vois plus. Il est mangé par le savon que l'eau dilue. Et son odeur, simple, élémentaire, un peu froide, presque clinique, emplit mon corps comme pour le laver aussi. Ma grand-mère me sort de l'eau. Elle me soulève sans effort. Je ne pèse rien. Je ne suis encore qu'un tout petit. Un petit d'être humain qu'elle sèche avec un pan dénoué de son sarrau bleu. Je grelotte. Ma peau se dresse et tremble. Je me respire. Je suis devenu savon. Grand-mère me rhabille. Je file au dehors sous le soleil. Je plisse les yeux. Je laisse la chaleur du jour me revêtir. Le pont des voleurs est là. Si étroit que deux hommes à pied ne peuvent s'y croiser. L'eau du lavoir rejoint par un tuyau de fonte celle du Sanon à cet endroit-là, sous le pont. Longue traînée blanchâtre, comme une voie lactée qui fossoie sans remords ses galaxies dans les remous. Objet liquide de curiosité sans fin, pour de minces alevins éteignés, qui s'y précipitent, s'y ébattent, en des mouvements nerveux, incontrôleux et joyeux, qui finissent par y mourir, brindilles d'écailles inertes, emportées par le courant. Alors, laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Charles Baudelaire. Il tenait là dans le creux de sa main un pouvoir plus fort que les pouvoirs de l'argent, ou que le pouvoir de la terreur, ou que le pouvoir de la mort, le pouvoir invincible d'inspirer l'amour aux hommes. Oui, l'intention des parfums et des odeurs est de produire un effet enivrant et séduisant. Je vous laisse ici, en espérant que cette toute dernière lecture, suivant le fil d'un abécédaire comme on suivrait le fil décousu de l'eau courante du ruisseau, du jus de la treille qui coule au grand vin de l'ivresse, au cœur cousu et rompu, aux odeurs et aux parfums gourmands. Fais de ces bons et de ces beaux mots et mets. De Baudelaire à Casanova, en passant par Proust, Delerme, Claudel et Suskin. Vous auront plu. Merci. Merci de votre écoute. Merci de m'avoir prêté vos belles oreilles, d'avoir écouté ces histoires avec votre cœur. Mangez-les toutes, afin qu'un jour elles ressortent de votre bouche et qu'une nouvelle parole vivante viendra, j'en suis sûre, en ressortir pour réchauffer d'autres cœurs. Merci.